L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que
Das Kapital, il ne dit pas Der Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines, une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais.
Bonsoir mesdames et messieurs. Tout d'abord, au nom de l'Université des sciences et des laboratoires d'astrophysique, c'est un très grand plaisir de vous accueillir pour cette conférence de Marc Lachaiseraie. Alors, simplement un petit mot sur cette conférence. Un des grands desseins de la science et des scientifiques en général, c'est d'établir des modèles les plus simples possibles afin de décrire les propriétés de présente, passée et quelquefois future de la nature. C'est ainsi qu'il y a à peu près 3000 ans, un des grands concepts a été abordé, c'était celui de l'espace. Qu'est-ce que l'espace ? Et il y a à peine un siècle, on est arrivé plus ou moins, je dirais presque, à clore le problème grâce à la théorie de la relativité générale d'Einstein et de comprendre réellement les propriétés de l'espace, espace matériel, espace physique. Désormais, un autre concept fondamental de la physique désormais est de comprendre qu'est-ce que le temps. En effet, le temps est devenu une entité d'espace. Marc va nous en parler de manière très approfondie. Marc Lachaiseraie, c'est un des, je dirais, des plus brillants cosmologistes en France. Il a abordé quantité de problèmes en cosmologie. De la distribution des vitesses à la topologie de l'univers est actuellement une des questions fondamentales sur la notion de temps en physique et particulièrement en cosmologie. Ces recherches, je dirais, ont une résonance un petit peu particulière à Montpellier, puisque Montpellier a deux grands laboratoires de physique théorique et d'astrophysique, le groupe de recherche d'astronomie et d'astrophysique du Languedoc et le laboratoire de physique théorique et d'astroparticules. D'ailleurs, petite information, ces deux laboratoires vont fusionner en un grand laboratoire d'astrophysique à partir de 2011. Les recherches sur le temps ont une consonance, effectivement, en astroparticules et également en cosmologie. Je n'en dirai pas plus, Marc va vous en parler de manière approfondie. À titre personnel et anecdotique, j'ai dit que Marc était un des plus brillants cosmologistes français. Je vous avoue, j'en parle en connaissance de cause, puisqu'une grosse partie de mon savoir cosmologiste, eh bien, je le dois à Marc, puisque Marc était un de mes premiers professeurs de cosmologie, et par ailleurs, il était membre de mon jury de doctorat, il y a fort longtemps. Et donc, vous comprendrez qu'un élève dit jamais de mal de son professeur.
Merci Denis et merci à tous ceux qui m'accueillent ici. C'est un plaisir, surtout au vu de la météo, au vu du temps. Mais c'est d'un autre temps que je vais vous parler ce soir. Et je vais vous parler du temps en physique, bien sûr, mais je pense qu'à propos de questions comme celle du temps ou comme celle de l'espace qu'a évoqué Denis ou comme celle de la matière et bien d'autres, on ne peut pas totalement dissocier le débat physique du débat philosophique, puisque je pense personnellement qu'il y a une interaction constante entre la physique, la philosophie, les mathématiques. Ce sont des disciplines qui interagissent donc, à mon avis, sans arrêt et qui s'enrichissent et qui se stimulent les unes les autres. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réflexion possible, qu'il n'y a pas d'avancée possible sans ces interactions, précisément. Donc, ce soir, je crois qu'on va s'interdire de parler de mathématiques, on va parler de physique, mais je crois qu'on sera quand même amené à parler un peu de philosophie, même si je suis que très marginalement compétent dans ce domaine. Mais bien sûr, ces questions-là relèvent d'une réflexion qui dépasse la physique. Alors, Denis nous a dit tout à l'heure que la question de l'espace était résolue depuis un siècle. Je le trouve bien optimiste, parce que je crois quand même que, justement, avec celle du temps, elles se font en quelque sorte correspondance, elles correspondent l'une à l'autre d'une manière qui les oppose en même temps, j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure, et il me semble qu'on ne peut pas régler la question de l'espace sans régler la question du temps, on ne peut pas régler la question du temps sans régler celle de l'espace, et que ni l'une ni l'autre, à mon avis, n'est totalement réglée. Mais ça n'est finalement qu'un aspect d'un problème beaucoup plus vaste, qui est que notre vision du monde, telle qu'on essaye de la formuler avec la physique, n'est pas réglée non plus. C'est-à-dire que nous avons une physique aujourd'hui, une physique qui fonctionne assez bien quand même, puisque, par exemple, on peut la juger à ses applications techniques qui nous permettent d'envoyer des fusées sur la Lune, qui nous permettent de construire un accélérateur de particules, qui nous permettent de construire des tas d'objets qui nous servent et qui fonctionnent dans la vie courante. Mais cette physique qui marche si bien, nous n'en sommes pas totalement satisfaits, nous les physiciens, pour des raisons que je vais vous exposer tout à l'heure, et qui, justement, en partie, tiennent à la question du temps. Donc, nous ne sommes pas totalement satisfaits de notre physique, et beaucoup de physiciens, la plupart des physiciens fondamentaux, pensent que notre physique telle qu'elle est formulée aujourd'hui n'est pas la physique définitive. Et donc se consacre à chercher une physique qui irait encore plus loin, de la même manière que si l'on remonte dans le passé, qu'on regarde l'histoire des idées, eh bien, à l'époque, par exemple, des Grecs, il y avait des conceptions physiques qui étaient celles de Platon et d'Aristote. Il y a eu ensuite les conceptions physiques de l'époque de Newton. Eh bien, à chacune de ces époques, on avait une conception du monde assez cohérente, et puis finalement, elle a été remise en cause. Donc ce serait assez naïf de penser que la conception du monde que nous avons, qui est donnée par notre physique d'aujourd'hui, serait cette fois définitive. Enfin, nous serions arrivés à la conception définitive. Ça serait très naïf et je pense qu'aucun physicien actuellement ne le pense. Mais j'irai même plus loin. Nous avons des raisons précises qui nous indiquent que ça n'est pas le cas. Je ne veux pas trop m'étendre sur ce point-là, mais une de ces raisons précises, c'est qu'aujourd'hui, la physique, je parle de la physique la plus fondamentale, c'est-à-dire pas la physique qui sert à construire des objets dans les laboratoires, c'est-à-dire la physique appliquée, mais la physique vraiment fondamentale, c'est-à-dire celle qui concerne la manière dont nous pensons précisément l'espace, le temps, la matière. Et cette physique est divisée aujourd'hui en deux corpus. Grosso modo, ce qu'on appelle la physique quantique et ce qu'on appelle la physique relativiste. Et la physique quantique, vous avez sans doute une vague idée de ce que c'est, mais elle s'intéresse essentiellement aux systèmes de petite taille, aux systèmes microscopiques. Par exemple, l'électronique, par exemple, les atomes, les noyaux d'atomes, par exemple, les interactions entre ces atomes ou ces molécules avec la lumière. À peu près tout ce qui est microscopique, et ça sert à faire des transistors, ça sert à faire des ordinateurs, etc. D'un autre côté, vous avez la physique relativiste qui s'intéresse plutôt au mouvement et à la gravitation, et c'est elle que l'on applique lorsqu'on va faire de l'astronomie, lorsqu'on va étudier les planètes dans le système solaire, lorsqu'on va vouloir faire de la navigation ou des télécommunications spatiales. Et donc nous avons ces deux, je dirais, corpus de pensée, c'est même plus que des théories, à l'intérieur de notre physique fondamentale d'aujourd'hui. Et selon qu'on s'intéresse à l'un ou à l'autre des problèmes physiques qui nous intéressent, eh bien, on va plutôt utiliser l'un ou l'autre. De la même manière, si chez vous, vous avez besoin de bricoler, bah, si vous avez une vis à tourner, vous allez prendre un tournevis. Si vous avez un clou, vous allez prendre un marteau. Mais vous avez rarement besoin du tournevis et du marteau à la fois. En physique, c'est pareil. On a rarement besoin de la physique quantique et de la physique relativiste à la fois. Mais ce qui est gênant, c'est que, à propos des questions que j'ai mentionnées, et en particulier le temps, elles impliquent des conceptions du monde et des conceptions du temps totalement différentes, voire opposées. Donc il y a une chose qui ressort de manière quasiment évidente, c'est qu'elles ne peuvent certainement pas être vraies toutes les deux. Puisqu'elles impliquent des conceptions du temps opposées, soit c'est l'une qui est vraie et l'autre qui est fausse, soit c'est l'autre qui est vraie et la première qui est fausse, soit aucune des deux est vraie et il y a une conception du monde un petit peu plus compliquée, ou peut-être d'ailleurs un petit peu plus simple, que nous n'avons pas encore trouvée et qui serait finalement meilleur et plus unifié. Et il y a beaucoup de chercheurs dans le monde qui cherchent cette nouvelle théorie dont on n'est pas sûr évidemment qu'elle existe, et même si elle existe, on n'est pas sûr qu'on va la trouver. Alors il y a des gens qui cherchent avec la théorie des cordes, il y a des gens qui cherchent avec la gravité quantique, il y a des gens qui cherchent avec des théories des twisters, d'autres avec la géométrie non commutative. Bon, il y a des tas d'idées qui circulent, qu'on essaye de mettre en forme avec les mathématiques, qu'on essaye de juger aussi d'un point de vue un peu philosophique pour savoir quelles conceptions, encore une fois, du temps, de l'espace, de la matière, elles impliquent, qu'on essaye de comparer les unes aux autres et qu'on voudrait bien pouvoir comparer à l'expérience, mais malheureusement, justement, dans les domaines où ces théories impliquent des prédictions particulières, eh bien, on n'est pas encore capable aujourd'hui de mener des expériences ou des observations physiques. Donc on est encore dans un domaine de physique très spéculatif, et c'est pour ça que, comme je le mentionnais au début, il y a quand même une grande liaison avec la réflexion philosophique, surtout à propos de ces questions du temps. Alors justement, le temps, venons-y, puisque le temps, c'est quelque chose dont nous avons tous une vision assez clair. Nous savons tous que le temps s'écoule, nous le sentons s'écouler, nous le ressentons, nous sentons finalement l'évidence la plus flagrante du temps, c'est que nous vieillissons. Chacun de nous vieillit. Qu'est-ce que ça veut dire vieillir? Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je vieillis? Essayez de vous poser la question. Chacun de nous doit avoir, il me semble, personnellement, la conscience qu'il vieillit ou qu'il grandit, si vous voulez. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je dis que je vieillis, ça veut simplement dire que je me rappelle avoir été plus jeune. Parce que si je ne me souvenais pas avoir été plus jeune, c'est-à-dire si à un moment donné, je n'avais pas ce souvenir, ben je ne dirais pas « je vieillis ». Parce que « je vieillis », c'est simplement affirmer que je suis aujourd'hui quelqu'un de différent de ce que j'étais il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc pour pouvoir le dire, il faut que je me souvienne de ce que j'étais il y a 10 ans, 20 ans. Donc la notion que nous avons de l'écoulement du temps, c'est une notion qui tout d'abord est personnelle et qui est liée finalement à cette conscience du vieillissement. Et cette conscience du vieillissement, comme je vous le disais, elle est liée à la mémoire. Donc quelque chose de personnel qui se passe dans notre esprit, qui se passe dans notre conscience, et ça, je pense que c'est une chose qui est certaine, cette notion du temps, nous l'avons tous, et elle est liée à la structure même de notre pensée. Bon, et je ne sais pas jusqu'à quand on peut remonter, mais j'imagine que les Grecs de l'Antiquité, et même avant les civilisations égyptiennes, babyloniennes, tout le monde devait avoir cette conscience du temps. L'homme, depuis qu'il est né, alors à quel moment, je ne sais pas, mais il me semble que c'est quelque chose qui a toujours existé, où je dirais que même peut-être on pourrait définir l'apparition de l'homme. Comment définir l'apparition de l'homme par rapport à ce qui était avant les hominidés? Bon, par une certaine notion de la pensée, de la conscience, et il me semble que, justement, la conscience du temps, la conscience de l'écoulement du temps, de son propre vieillissement, fait partie de cette conscience. Donc je crois que ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel et personnel. Mais dire que l'on a cette conscience d'un écoulement du temps qui nous est personnel, ça n'est pas tout à fait la même chose que de dire qu'il existe un temps dans la physique, dans l'univers, qui s'écoule pour tout le monde. Et ce qui prouve que ça n'est pas vraiment la même chose, c'est que cette notion du temps que je qualifierais d'universelle que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le temps, la notion intuitive du temps que nous avons, c'est-à-dire le temps s'écoule, c'est le même pour tout le monde, cette notion n'a pas toujours existé. Et je dirais qu'en tout cas dans la physique, elle a été introduite à peu près à l'époque qui a suivi la Renaissance, essentiellement sous l'influence de Galilée et de Newton. Donc je ne vais pas retracer une histoire des idées à propos du temps, mais ce qu'on peut affirmer, qui à mon avis est quelque chose d'extrêmement important vis-à-vis de toutes ces questions, c'est que la notion de temps, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la physique, mais de manière plus générale, dans l'étude des phénomènes naturels, a été introduite d'une manière précise et d'une manière essentielle, en gros par Newton, à la suite des travaux de ses prédécesseurs, et notamment Galilée, mais c'est au XVIIe siècle que cette notion de temps a été introduite, et la conséquence a été extraordinairement importante, c'est que tout simplement ça a permis la naissance de la physique moderne. Parce que la physique moderne, elle est née précisément à l'époque de Newton. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une connaissance qu'on pourrait qualifier peut-être de scientifique, ou au moins de pré-scientifique avant, notamment chez les Grecs, et puis même au Moyen-Âge, dans l'Antiquité. Mais d'avoir une discipline scientifique vraiment formalisée, organisée et efficace, ça date de Newton. Et comme par hasard, cette efficacité, cette naissance de la physique moderne, elle est née au moment où le temps est introduit explicitement dans la description de la nature. Que fait Newton ? Newton a écrit en 1687 un ouvrage fondamental qui s'appelle « Les Principia », « Principes de la philosophie naturelle », je crois, le titre exact. Et il énonce les bases finalement de la physique moderne, d'une physique qui va rester en vigueur à peu près pendant 3 siècles, jusqu'à ce qu'il y ait une double révolution qui va être celle de la physique quantique et de la relativité. Et dans l'énoncé de cette physique, eh bien, il y a l'introduction explicite de beaucoup de choses, énormément de choses. La notion d'univers, par exemple, mais ce n'est pas mon sujet ce soir. Mais l'univers de Newton, c'est finalement l'espace et le temps. Donc c'est le moment où sont véritablement introduites d'une manière précise les notions d'espace et de temps physique. Quand je dis d'une manière précise, ça veut dire qu'elles sont codifiées aussi mathématiquement. C'est-à-dire que ces notions d'espace et de temps physique, elles sont mises en correspondance avec des notions mathématiques, avec des notions géométriques. C'est-à-dire Newton va introduire l'espace physique et il va dire l'espace physique, nous allons le modéliser par l'espace mathématique qu'on connaissait depuis longtemps parce que les Grecs avaient beaucoup de géomètres et essentiellement c'est ce qu'on appelle l'espace d'Euclide. Et le temps, on va le modéliser aussi d'une manière mathématique, d'une manière géométrique. Et finalement, vous savez bien qu'on peut le représenter par une droite. C'est bien souvent qu'on a affaire à des représentations du temps sur une droite où chaque point de la droite représente une date. Vous avez le passé tout là-bas et puis ici aujourd'hui, là demain et puis très loin dans le futur, etc. On a bien cette conception d'un temps géométrisé. Et bien ceci, ça date de Newton. Et ce qui est assez remarquable, c'est que Newton ne donne pas vraiment une définition du temps et de l'espace. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que depuis Newton, et même avant Newton, vous pouvez chercher partout, chez les philosophes, chez les physiciens, chez les mathématiciens, aller chercher aussi chez les théologiens, chez les artistes, vous ne trouverez jamais une définition vraiment complètement acceptable de l'espace et du temps. Et on travaille avec ces notions d'espace et de temps sans en avoir une définition précise. Mais ce que fait au moins Newton, c'est qu'il en énonce certaines propriétés. Le temps est absolu, le temps s'écoule uniformément. Bon, ce sont des propriétés. On est capable d'énoncer certaines des propriétés de l'espace et du temps, mais on n'est pas capable d'en donner vraiment une définition complète et cohérente. Ça ne fait rien, ça suffit pour fonctionner avec, pour travailler avec, puisque justement cette physique de Newton va se révéler très très efficace pendant 3 siècles. Alors, qu'a fait Newton ? Mon interprétation, c'est que Newton est parti de ce... Je dis Newton, mais évidemment, ce n'est pas le seul, ce n'est pas le premier. Il s'est appuyé, comme il l'a dit lui-même, sur les travaux de ses prédécesseurs. Il a dit « Si j'ai vu si loin, c'est que je suis un nain juché sur les épaules des géants ». tous ces géants, c'était qui ? C'était Copernic, Galilée, Kepler, et encore plus loin, Platon, Aristote, les atomistes, etc. Donc je dis Newton pour simplifier, parce que c'est lui qui a écrit cet ouvrage, et cet ouvrage est considéré comme fondateur de la physique moderne, mais bien entendu, ses idées, elles ne sont pas nées d'un coup dans la tête de Newton, c'est quelque chose qui a mûri très longuement. Donc, il me semble que ce qui s'est passé, c'est que cette notion de temps, comme je vous l'ai dit, nous l'avons tous personnellement dans notre conscience. Et puis, nous sommes capables de communiquer entre nous et nous voyons qu'en discutant, en échangeant, en réfléchissant ensemble, nous voyons que nous avons tous, chacun de nous, cette notion de temps qui nous est relativement personnelle. Donc, il n'est pas déraisonnable de penser que, puisque nous avons tous une notion du temps à peu près identique, en fait, il existe quelque chose de plus universel, d'absolu, qui est le temps, et ma notion personnelle du temps, ben c'est finalement ce temps universel que je vois d'une certaine manière, et puis donc, puisque vous, vous voyez aussi ce temps universel, c'est pas étonnant que vous ayez une notion du temps qui ressemble à la mienne. Autrement dit, l'introduction du temps qui devient maintenant universel, eh bien, c'est simplement une démarche qui, à partir du temps qui nous est personnel à chacun, va consister à déclarer « il existe un temps universel », et ce que chacun de nous appelle son temps personnel, ça n'est que la manière dont il voit, dont il ressent ce temps universel. Et donc, ce que Newton va dire, c'est le temps universel s'écoule pour tout le monde, pour tous les objets, pour tous les systèmes, pour tout l'univers, pour la Terre, pour les planètes, etc. etc. Et c'est quelque chose, c'est une affirmation extrêmement forte. Et non seulement elle est très forte, mais en plus elle a marché. Donc, quand en physique on fait une déclaration très forte, ça veut dire on fait finalement une hypothèse. Eh bien, c'est très risqué parce que plus cette affirmation a une force, plus il devrait être facile de la démentir. Mais d'un autre côté, si elle est vérifiée, vous gagnez beaucoup. C'est comme quand vous jouez à un jeu de hasard. Si vous misez beaucoup, ben évidemment, c'est risqué. Mais si vous gagnez, vous gagnez beaucoup. Donc là, c'est un peu pareil. Je dirais que déclarer qu'il existe un temps universel, c'est miser très gros. Et ben ça a marché, puisque ça a fondé toute une physique qui a eu des succès après succès pendant 3 siècles. Donc ce que je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Déclarer qu'il existe un temps universel, on y est tous habitués, on utilise tous cette notion, c'est-à-dire quand on se donne rendez-vous ici à 8h30, bah tout le monde est là à 8h30, il n'y a pas besoin de se dire est-ce que vraiment on est en physique relativiste ou pas, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Bon, donc il est commode de se dire il existe un temps qui s'écoule et puis toutes les horloges dans le monde entier marquent ce temps, on ne se demande pas trop pourquoi, et cette hypothèse fonctionne. Donc tout le monde est heureux et la notion d'espace découle plus ou moins de celle de temps. Et finalement, ça marche tellement bien qu'on peut rester dans cette espèce de flou qui déjà était là chez Newton, c'est-à-dire on a tous l'idée de ce que c'est que le temps. Newton nous a bien expliqué comment il va intervenir dans les équations, comment on va écrire des équations qui font intervenir le temps, comment on peut les résoudre pour trouver, par exemple, la manière dont un système évolue. Ben, on n'a pas besoin de s'en demander davantage. On est content. On a cette idée du temps universel. Bon. Alors, ce que je vous dis tout de suite, c'est que 3 siècles plus tard, eh bien, on va s'apercevoir que finalement, cette affirmation ne tient plus, elle est contredite par ce qu'on observe dans la nature. C'est quelque chose qui va arriver au XIXe siècle. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je l'annonce tout de même tout de suite, parce qu'il faut donc se méfier de quelque chose qui était aussi évident, parce que cette évidence, finalement, a conduit les physiciens à utiliser cette nouvelle notion du temps sans trop se poser de questions à son propos. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas de définition du temps, on n'en a jamais eu, donc on travaille avec, parce que ça marche, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc avant de vous parler de ce qui s'est passé au 19e et 20e siècle qui a conduit à la remise en question du temps, peut-être il vaut mieux préciser quelques propriétés du temps
telle que l'a introduit Newton dans la physique et qui finalement correspond exactement à la manière intuitive que nous avons du temps quand on va dire nous sommes le 28 avril 2010 à 21h. Bon, on sait tous ce que ça veut dire, on comprend bien, et cette notion-là, c'est la notion du temps newtonien, finalement, appliquée à la vie de tous les jours. Eh bien, essayons de la décortiquer, essayons très rapidement d'en donner quelques propriétés. Puisqu'on ne sait pas définir le temps, au moins essayons de définir certaines de ses propriétés, et puis après on verra si ça va tenir dans la physique d'aujourd'hui. Bon, bah la première propriété, c'est ce qu'on appelle la simultanéité. C'est-à-dire, s'il y a un événement qui se déroule ici, par exemple je suis en train de parler, et puis un autre événement qui se déroule à Paris, je ne sais pas, Monsieur Sarkozy est en train de sortir de l'Élysée, par exemple, bon, eh bien je peux dire... Pendant que je prononce ce mot, le mot Sarkozy, je ne sais pas pourquoi je parle de Sarkozy, mais enfin, ça m'est venu comme ça. Bon. Pendant que je prononce ce mot, le personnage est en train de sortir de l'Élysée au même moment. Ça a un sens. Ce qui donne un sens, c'est que, par exemple, ici, je peux regarder ma montre, il est 9h05. Monsieur Sarkozy regarde sa montre, il est 9h05. Donc, c'est le même moment du temps, la même date, si vous voulez, enfin, la même heure. Donc, c'est simultané, ça a un sens. Et dans l'optique newtonienne, on peut avoir quelqu'un qui est sur la Lune, ou sur la planète Mars, ou dans la galaxie d'Andromède, où vous voulez, qui regarde sa montre en ce moment, il est 9h05, et il est en train de sortir, c'est le président de la planète Mars, il est en train de sortir du palais présidentiel de la planète Mars à 9h05, donc au même moment. Donc, il y a un sens, dans ce cas-là, à dire que au moment même où je parle, le président de la planète Mars est en train de sortir de son palais présidentiel, ou bien dans la galaxie d'Andromède, etc. La notion de simultanéité a un sens bien précis, et donc deux événements, ou bien sont simultanés, ou bien ne le sont pas, c'est quelque chose qu'on peut toujours trancher, au moins en principe. Bon. Deuxième notion, la notion de chronologie. Chronologie, eh bien, c'est assez facile de dire que quelque chose... Si je considère encore deux événements, le moment où je parle et puis le moment où notre président va monter dans sa voiture, eh bien, soit le moment où je prononce son nom, s'ils ne sont pas simultanés, soit c'est avant, soit c'est après. Et comment savoir ? Ben voilà, je sais que moi, il est 9h05. Si c'est 9h03, c'est après. Si c'est 9h06, c'est avant. Donc, encore une fois, le fait qu'il y ait un temps... Un temps, c'est quelque chose qui permet de donner une date à chaque événement. C'est très pratique, parce que si je donne une date, comme je sais classer les dates, je sais classer les événements. Donc si deux événements ont la même date, ils sont simultanés, et selon que la date est plus grande ou plus petite, il y en a un qui se déroule avant, l'autre qui se déroule après. Donc vous voyez que, au moins, on a découvert deux propriétés du temps qui sont de définir la simultanéité et la chronologie. Et puis il y a aussi une autre notion qui s'appelle la causalité. On va dire qu'un événement, il a la possibilité d'être la cause d'un autre s'il se déroule avant. Par exemple, M. Sarkozy peut savoir que j'ai prononcé son nom, et du coup, à cause de ça, il va décider de monter dans sa voiture pour venir à Montpellier. Donc, ceci est la cause du fait que le président monte dans sa voiture. Mais si le président de la voiture est monté, si le président est monté dans sa voiture une minute avant... Eh bien, ce que j'ai dit ne peut pas être la cause, puisque ça s'est passé avant. Donc, dans ce cas-là, la notion de chronologie se confond avec la notion de causalité. C'est très simple. Un événement a la possibilité d'être la cause d'un autre s'il s'est déroulé avant. C'est presque évident. Mais je distingue ici les deux notions, parce que quand on va arriver à des théories comme celle de la relativité générale, les notions de chronologie et de causalité sont totalement différentes. Donc, dans la vision de tous les jours et dans la vision newtonienne, elles sont confondues, mais vous voyez bien quand même que du point de vue un peu philosophique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dire qu'un événement se déroule avant ou dire qu'un événement peut être la cause d'un autre, c'est presque pareil, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil, mais dans d'autres conceptions, ça sera différent. C'est pour ça que je distingue les deux choses. Une autre propriété du temps, c'est que je peux définir une durée. Par exemple, je vous parle. Bon, j'ai commencé à parler il y a à peu près, 25 minutes. Donc, je peux définir la durée de ce que je vous ai déjà dit. C'est-à-dire, c'est la date de maintenant l'heure de maintenant, 9h, moins la date du début, 9h-25. Donc, je viens de parler pendant 25 minutes. Cette notion de durée est bien définie, parce qu'il existe un temps. À chaque événement, j'associe une date, et la durée entre les deux événements, c'est la différence entre les dates. Encore quelque chose de tout à fait évident. Sauf que, justement, cette propriété va disparaître dans la physique d'aujourd'hui. Et vous voyez que ce qui va se passer, j'ai déjà anticipé, c'est que dans la physique d'aujourd'hui, on va voir toutes les propriétés que nous avons l'habitude d'associer au temps disparaître les unes après les autres. D'où la question, est-ce que dans la physique d'aujourd'hui, on a encore la possibilité, on a encore le droit de parler du temps ? Est-ce que ça a encore une signification ? Bon, alors venons-en justement à ce qui annonce la physique d'aujourd'hui. Nous en étions à cette physique de Newton, énoncée au XVIIe siècle, qui fait intervenir l'espace et le temps, qui marche extrêmement bien, qui va continuer à marcher extrêmement bien jusqu'au XXe siècle. Quand je dis qu'elle marche extrêmement bien, c'est qu'elle permet de prédire le mouvement des boulets de canon, elle permet de prédire le mouvement des planètes autour du Soleil, des satellites autour des planètes, des étoiles dans la galaxie, plus tard des galaxies dans l'univers, la cosmologie, presque. Bon, elle marche extrêmement bien et finalement, depuis sa naissance jusqu'au moment où on va introduire les nouvelles théories, physique quantique et relativité, elle n'aura jamais été prise en défaut, je dirais, d'une manière pratique. C'est-à-dire, jamais on aura vu un résultat d'observation ou d'expérience qui contredisent la physique de Newton. J'insiste parce que cette physique n'a jamais été en défaut du point de vue pratique. Et si elle a été remplacée par la physique quantique et par la relativité au XXe siècle, ce sont pour des raisons philosophiques et épistémologiques. Comme l'a dit par exemple Einstein lui-même abondamment, c'est vraiment à cause de l'insatisfaction qu'il avait lui et qu'avaient beaucoup d'autres philosophes et physiciens des conceptions du monde qu'impliquait la physique newtonienne, et non pas à cause de contradictions qu'il y aurait pu y avoir entre cette physique et l'expérience, et notamment à propos des questions de temps. Alors, à propos de ces questions de temps, justement, il s'est passé quelque chose au XIXe siècle, une grande crise de la physique. À savoir qu'une des propriété de la physique newtonienne, c'était de permettre de décrire les lois, d'avoir des lois qui décrivent les mouvements. Soit les mouvements libres, c'est-à-dire des objets qui sont soumis à aucune force qu'on appelle la cinématique, soit les mouvements non libres, c'est-à-dire des particules qui sont soumises à des forces, ce qu'on appelle la dynamique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il existait une loi fondamentale de ces mouvements, à propos de ces mouvements, une loi fondamentale de la cinématique qui s'appelle la loi de composition des vitesses et qui s'énonce très simplement en disant que les vitesses se composent en s'additionnant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si par exemple je suis dans un train qui roule à 100 km/h, dans le train je me déplace à 10 km/h, ben, le chef de gare qui me regarde passer me voit passer à 110 km/h. C'est-à-dire, ma vitesse de 10 km/h dans le train s'additionne à la vitesse de 100 km/h du train, et donc il me voit passer à 110 km/h. Et si je vais dans l'autre sens, il va me voir passer à 90, 100 moins 10 km/h. C'est la loi d'addition des vitesses, et pour tous les objets matériels, tout ce qui a pu être fait, elle est extrêmement bien vérifiée, et c'est une loi fondamentale de la physique newtonienne qui marche très bien. Elle marche très bien, sauf pour la lumière. Parce qu'on s'est aperçu que la vitesse de la lumière était toujours la même. Ça a été au début soupçonné, et au milieu du XIXe siècle, ça a été confirmé d'une manière précise par une expérience appelée l'expérience de Michelson et Morley. Conclusion, la vitesse, je simplifie, mais la vitesse de la lumière est toujours la même. Si la vitesse de la lumière est toujours la même, ça veut dire qu'elle n'obéit pas à la loi de composition des vitesses. Si je suis dans un... On ne va pas prendre un train parce que c'est des vitesses trop faibles, mais si je suis dans une fusée très rapide et que j'émets de la lumière à la vitesse de 300 km par seconde, celui qui va recevoir la lumière ne va pas la recevoir à 300 km par seconde plus la vitesse de la fusée, mais à 300 000 km par seconde. Donc la loi des vitesses ne s'applique pas. La lumière n'obéit pas à la cinématique newtonienne. bon, on pourrait se dire c'est pas très grave, sauf que quand on réfléchit justement d'un point de vue philosophique, on s'aperçoit que la cinématique, c'est l'étude des mouvements libres. Une particule libre qui est en mouvement, elle n'est soumise à rien, à aucune force, à aucune interaction. Donc son mouvement ne dépend que des propriétés de l'espace et du temps. Et si la lumière et la matière ordinaire avaient des propriétés cinématiques différentes, ça voudrait dire que quand on s'intéresse à l'une, l'espace et le temps ont certaines propriétés. Quand on s'intéresse à l'autre, l'espace et le temps ont d'autres propriétés. Il y a là une contradiction qui ne va pas. Et les physiciens s'en sont bien rendus compte. On n'a pas une description cohérente. On est obligé d'accorder à l'espace et au temps, et finalement à leur rapport, parce que l'étude des mouvements, c'est l'étude des rapports entre l'espace et le temps. La cinématique, en tout cas. Donc, on est obligé d'imaginer... Si je m'intéresse à la lumière, je dois concevoir que le temps et l'espace ont certains types de rapports. Si je m'intéresse à la matière, je dois concevoir que le temps et l'espace ont certains types de rapports. Mais je vis dans un univers qui est unique. Donc, ça ne peut pas être les deux à la fois, encore une fois. Donc, une crise. Une crise très, très aiguë qui a mobilisé tous les physiciens de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et il y a eu un premier pas dans la résolution qui a été accompli par un physicien hollandais qui s'appelle Hendrik Lorentz et Henri Poincaré, physicien mathématicien français, qui a été de trouver au moins une expression pratique, une nouvelle loi, pour remplacer la loi d'addition des vitesses. Cette nouvelle loi, on l'appelle transformation de Lorentz. Et elle va déclarer que deux vitesses se composent non pas en s'additionnant, mais avec cette loi différente qui s'appelle la transformation de Lorentz. Si j'avais un tableau, j'aurais pu vous écrire la formule parce qu'elle est très jolie. Mais peu importe, ça s'appelle la transformation de Lorentz, ça suffit pour notre propos. Mais, alors, premièrement, succès. Pourquoi ? Parce que quand on met dans cette formule des vitesses qui sont relativement petites des objets matériels, bon, approximativement, mais avec une très bonne précision, cette formule revient à additionner les vitesses. Donc pour les vitesses, disons, petites devant la vitesse de la lumière, ça redonne la loi d'addition des vitesses. Et pour quand on met la vitesse de la lumière dedans, eh bien, la vitesse de la lumière, composée avec autre chose, redonne toujours la vitesse de la lumière. Donc la formule marche. C'est extraordinaire, tout le monde est très content, mais cette formule, personne ne la comprend. Personne comprend qu'est-ce que ça peut vouloir dire de remplacer la formule d'addition par ça. Celui qui va comprendre, c'est Einstein en 1905, et il comprend qu'on ne peut interpréter cette formule que si l'on dit eh bien, le temps et l'espace, ça n'existe pas. Et dire que l'espace et le temps, ça n'existe pas, c'est ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte, énoncée donc par Einstein en 1905. Et si vous dites que l'espace et le temps n'existent pas, à ce moment-là, on peut interpréter la formule. La formule n'a aucun sens si on dit que le temps existe, mais elle prend son sens si on dit que le temps n'existe pas. Donc, bien que l'article ne soit pas formulé exactement de cette manière, 1905, relativité restreinte, c'est l'énoncé de la disparition du temps, et un peu plus tard, ce qui sera explicité, plus d'ailleurs par Poincaré, que j'ai déjà cité, ou Minkowski, que par Einstein lui-même, c'est que l'espace et le temps doivent être remplacés par une entité différente qui s'appelle l'espace-temps. J'en dirai un mot tout à l'heure. Mais c'est ça qui est très important, parce que on considère que l'inventeur de la nouvelle théorie de la relativité, eh bien, ce ne sont pas Lorentz et Poincaré qui pourtant avaient trouvé la formule, mais c'est bien Einstein qui a réussi à comprendre que ça entraînait la disparition du temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans ce cadre-là, la disparition du temps ? Eh bien, s'il n'y a pas de temps, par exemple, l'idée de simultanéité dont je vous ai parlé tout à l'heure ne va peut-être pas exister. Mais prenons les choses dans l'autre sens. Si la simultanéité n'existe pas, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a du temps, il y a de la simultanéité, elle est bien définie. Si maintenant on ne peut pas définir la simultanéité, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Or, ce qu'Einstein a remarqué, c'est qu'il est impossible de définir la simultanéité. Pourquoi ? Justement, à cause de la vitesse de la lumière. Cette vitesse de la lumière, finalement, dans tout ça, elle joue un rôle extrêmement important. Einstein s'est posé la question suivante, il s'est reposé la question que j'ai mentionnée tout à l'heure. Supposons quelqu'un qui soit dans une étoile lointaine. Et au moment où je parle, je me demande que fait cette personne au moment précis où je parle. Comment puis-je le savoir ? Ben, je lui demande. Je lui demande, par exemple, en ce moment même, je lui envoie un signal radio, je lui demande « qu'est-ce que tu fais ?» Elle va me répondre, mais elle va me répondre « je suis en train de monter dans ma voiture ». Mais le problème, c'est que la question que je lui ai posée, qui a été transportée, par exemple, par des ondes radio, aura mis un certain temps à lui parvenir. Elle va répondre tout de suite, et puis sa réponse aura mis encore du temps à vous parvenir. Bon, si elle est dans une étoile lointaine, je vais recevoir la réponse dans 3 ans. Donc, je lui ai demandé « qu'est-ce que tu fais en ce moment même où je parle ?» Elle me répond « je monte dans ma voiture, et je reçois la réponse dans 3 ans. » Donc, la question, c'est « elle monte dans sa voiture au moment où j'ai posé la question ?» Ou bien au moment où j'ai reçu la réponse, ou bien entre les deux, comment savoir ? Et ce qu'Einstein a montré, c'est qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Il n'y a aucun moyen de concevoir, même pas de faire. Il ne s'agissait même pas de savoir si avec la technique de l'époque ou même la technique d'aujourd'hui, on pourrait le faire. Il n'y a absolument aucun moyen de concevoir un dispositif qui nous permettrait de répondre à cette question. Autrement dit, il n'y a absolument aucun moyen de définir la simultanéité. C'est-à-dire, si je dis « c'est au moment où je pose la question qu'il monte dans sa voiture », c'est possible. Si je dis « c'est au moment où je reçois la réponse qu'il monte dans sa voiture », c'est possible, etc. N'importe quel moment. Toutes les réponses sont possibles. Aucune n'est meilleure que l'autre. Il n'y a absolument aucun moyen que nous offre la réalité physique pour choisir entre ces réponses. Autrement dit, la notion de simultanéité n'a aucun sens. Et ça, Einstein l'a démontré. Il a démontré que dans la physique, telle qu'elle était à l'époque, avec la vitesse de la lumière qui implique que l'information met du temps à se transmettre, il est absolument impossible de définir une simultanéité. Ensuite, cette démonstration n'a été qu'accentuée, étendue à des circonstances encore plus générales. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Donc, Einstein a montré que la simultanéité n'existait pas. Par ailleurs, on sait que si le temps existe, la simultanéité existe. Parce que si le temps existe, il suffit de dire mes événements, ou bien ils se déroulent au même moment du temps et ils sont simultanés, ou bien non et ils ne le sont pas. Donc, s'il est impossible de définir la simultanéité, c'est que le temps n'existe pas, en tout cas, évidemment, de la manière dont j'ai énoncé ses propriétés tout à l'heure. Donc, ce que Einstein a montré, c'est que, premièrement, la simultanéité n'existait pas, et que donc le temps, en tout cas, avec les propriétés qu'il avait dans la physique newtonienne et avec les propriétés qu'il a dans notre conception de tous les jours, n'existe pas. Et deuxièmement, il a montré aussi que si l'on partait de cette idée que le temps n'existe pas, eh bien, on avait une explication naturelle de la formule de Lorentz, et donc la crise du 19e siècle était résolue. Et ça, ça a été donc la théorie de la relativité restreinte en 1905. Alors, je vais passer sur une longue histoire, parce que le temps s'écoule, même ici. Et il y aura une amélioration, une généralisation de cette théorie 10 ans plus tard qui s'appelle la relativité générale, qui va en fait tenir compte des phénomènes gravitationnels qui n'étaient pas pris en compte, mais c'est sans doute pas ça le plus important dans toute cette histoire. Ce qui est important, c'est de comprendre ce remplacement de l'espace et du temps, donc que l'on a chez Newton et que l'on a dans notre vision intuitive, par cette notion d'espace-temps. Que l'on soit en relativité restreinte de 1905 ou que l'on soit en relativité générale qui viendra 10 ans plus tard, ce qui va changer, c'est la structure géométrique de cet espace-temps. C'est-à-dire, dans un cas, il n'a pas de courbure, dans l'autre, il a une courbure qui est assimilée à ce qu'on appelle la gravitation, mais encore une fois, ça n'est sans doute pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est le passage de espace et temps à l'espace-temps. Alors je vous ai dit tout de suite que dans l'espace-temps, il n'y a pas de notion de simultanéité. On peut se demander maintenant, Est-ce que les autres propriétés dont je vous ai parlé, à propos du temps newtonien et du temps dont nous avons l'habitude, elles existent aussi? Alors, il faudrait un peu plus de temps, justement, pour en parler, mais je vous indique tout de suite, la chronologie n'existe pas dans l'espace-temps. C'est-à-dire, si je considère deux événements, on va changer un peu d'événement, on va dire, par exemple, deux étoiles qui explosent. J'ai une étoile qui explose dans notre galaxie. C'est bien les explosions d'étoiles parce que ça se voit. Ça fait quelque chose qui s'appelle une supernova et c'est extrêmement lumineux et on peut l'observer dans un télescope. Donc je suppose deux étoiles dans deux galaxies différentes qui explosent. Et elles explosent à un moment bien précis. C'est ce qu'on peut appeler un événement. Un événement, c'est quelque chose qui se déroule à un endroit précis, à un moment précis, dans la conception habituelle, bien sûr. Donc deux étoiles explosent et je peux me demander, ben, est-ce qu'elles explosent en même temps? Est-ce que l'une explose avant l'autre ou l'autre après la première? Bon, vous avez déjà compris que la simultanéité, ça n'existe pas. Donc dire qu'une étoile explose avant l'autre, ça n'a pas de sens. Dire que les deux étoiles explosent en même temps, ça n'a pas de sens. Mais ce qui apparaît, c'est que ça n'a même pas de sens de dire une étoile explose avant l'autre. Et je m'explique. En fait, on peut mettre sur pied certains types d'observations pour savoir quand même si une étoile explose avant l'autre. Et justement, c'est Einstein qui a donné ces procédures pour essayer de voir quelle est celle des deux étoiles qui explose la première. Enfin, de manière plus générale, mais je l'applique ici aux étoiles. Donc, si je suis quelqu'un dans l'univers qui observe, je peux finalement réaliser toute une expérience avec un protocole très précis qui est très bien énoncé par Einstein et qu'on peut généraliser aujourd'hui, qui me permet de dire quelle est celle de deux étoiles qui explose la première. Bon, je fais l'expérience, je fais l'observation et je conclus l'étoile A explose avant l'étoile B. Mais quelqu'un d'autre qui va être sur une autre étoile fait exactement la même expérience, et lui, il va conclure, c'est l'étoile B qui explose avant l'étoile A. Et puis encore un autre va dire, les deux étoiles explosent en même temps. Qui a raison? Encore une fois, personne, parce que tout le monde a fait la même expérience, et tout le monde trouve des résultats différents. Ce qui veut dire que ça n'a même pas de sens dans ce cas-là, de dire qu'il y a une étoile qui explose avant l'autre, ou c'est l'autre qui explose avant, où elles explosent en même temps. Donc non seulement la notion de simultanéité a disparu, mais la notion de chronologie aussi. Je mets une petite nuance, c'est qu'en fait, dans certains cas, il est quand même possible de définir la notion de chronologie, mais pas dans tous. Donc ce que j'ai dit ne s'applique pas à tous les événements, mais en tout cas, il existe des événements pour lesquels il est impossible de définir la notion de chronologie. Quels que soient les événements, il est impossible de définir la simultanéité et la chronologie. Donc, ça fait encore une propriété du temps qui disparaît. Ça fait beaucoup. Encore une fois, maintenant, les durées. Si j'ai deux événements, alors deux événements, par exemple, ça peut être mes deux anniversaires. Un anniversaire et l'anniversaire de l'année suivante. Pour moi, c'est très clair, le temps qui s'est déroulé entre mes deux anniversaires, c'est un an. Bon. Mais j'imagine que j'ai un ami cosmonaute et il est venu me dire bonjour pour mon dernier anniversaire. Et puis il s'est dépêché parce qu'après il partait dans son petit voyage spatial. Et puis il a fait son voyage spatial et il revient pour mon anniversaire suivant. Il arrive juste à temps pour me serrer la main. Et pour moi, bah, évidemment, il s'est écoulé un an. Et quand il revient, bah, pour lui, il s'est écoulé par exemple 6 mois. Alors 6 mois, un an. Quelle est la durée qui sépare mes deux anniversaires? Pour moi, c'est un an. Pour lui, c'est 6 mois. Pour quelqu'un d'autre, ça sera qui aura fait un autre voyage, ça sera 9 mois, ça sera... Bon. Tout ça paraît assez paradoxal. Et même cette petite expérience de pensée a été conçue par le physicien Paul Langevin, justement, pour illustrer un peu les côtés étranges de la relativité. Et on appelle ça le paradoxe des jumeaux de Langevin, en imaginant que le frère soit un frère jumeau. Mais c'est tout à fait ce qui se passe. Alors, ça a été vérifier d'une manière très précise, non pas évidemment avec des humains, parce qu'on n'est pas capable d'envoyer des humains dans une fusée pour faire un voyage aussi lointain qu'il le faudrait, mais avec des particules élémentaires, avec des rayons cosmiques, en astronomie, tout ça est extrêmement bien vérifié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la notion de durée entre deux événements, elle disparaît. C'est pas tout à fait qu'elle disparaît, mais c'est que entre deux événements donnés, qui sont mes deux anniversaires, eh bien, chacun va associer une durée différente. Donc la notion de durée disparaît aussi. En revanche, chacun, je répète, va associer ce qu'on va appeler une durée propre. Mais c'est une durée qui est propre à lui. Donc, vous voyez qu'on a une grande partie des notions qui étaient associées au temps qui disparaissent en relativité. Notion de simultanéité, notion de chronologie, notion de durée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres notions qui subsistent, par exemple la notion de causalité. Alors, question, est-ce qu'on peut encore dire que le temps subsiste en relativité ? Bon, la réponse est très claire, c'est non. Mais quand même, on a tellement l'habitude de raisonner en parlant de l'espace et du temps qu'on voudrait bien quand même arriver à restaurer cette notion de temps. Et puis on a quand même un fait d'expérience qui est très fort, c'est que quand on est ici, pour nous, le temps, ça a un sens, on a à peu près la même notion du temps, on arrive à se retrouver au même moment, on arrive à synchroniser nos montres, elles restent synchronisées, donc il faudrait comprendre aussi, si vraiment le temps n'existe pas en relativité, comment ça se fait qu'on arrive à se mettre d'accord sur nos rendez-vous. Alors, la relativité explique très bien ça. C'est que nous tous, à l'échelle de l'univers, nous avons deux propriétés. La première propriété, c'est que nous sommes tous dans le même point de l'univers, au même point de l'univers. C'est-à-dire, la Terre, c'est vraiment minuscule à l'échelle de l'univers, donc nous sommes au même endroit, premièrement. Et deuxièmement, nous sommes tous, disons, au repos les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que même si demain vous prenez un avion supersonique, vous allez aller peut-être à 1000 km/h, quelque chose de cet ordre, mais 1000 km/h comparé aux 300 000 km par seconde de la lumière, c'est quasiment rien. Donc, tous les effets dont j'ai parlé sont à peu près négligeables, et tout se passe pour nous comme si le temps était le même, comme si nous vivions dans un temps commun. Sauf que ce temps commun, c'est pas le même que le temps sur la planète Mars, c'est pas le même que le temps dans la galaxie andromède, c'est même un temps différent du temps qui va s'écouler dans un satellite artificiel. Et à ce propos, on peut par exemple citer le système GPS. Vous savez que le système GPS, c'est un système qui nous permet de nous repérer. Certains ont sans doute un GPS dans leur voiture, ou ceux qui font de la randonnée ont un GPS qui permet de savoir où on est. Comment ça marche ? Eh bien, vous savez sans doute qu'il y a un système de satellites qui tourne autour de nous, et puis on n'envoie pas un signal, mais on reçoit des signaux du GPS qui nous indiquent le temps qui s'écoule pour eux, et on reçoit ce signal avec un décalage temporel qui est parcouru par la lumière, donc qui nous indique quelle est la distance qui nous sépare de ces satellites, et puis par triangulation, on reconstitue notre position. Ceux qui ont fait de la navigation savent bien comment, par triangulation, on peut repérer sa position. C'est le même principe. Bon, eh bien, tout ceci fait intervenir le temps qui s'écoule dans les satellites. Mais le temps qui s'écoule dans un satellite, ça n'est pas le même que celui qui s'écoule sur Terre. C'est-à-dire, entre moi et vous, le temps n'est pas le même, mais nous sommes suffisamment proches, comme je vous l'ai dit, on a des vitesses l'un par rapport à l'autre suffisamment faibles pour qu'on puisse faire comme si c'était le même. Mais le satellite, il commence à être assez loin, et il a une vitesse qui n'est pas tout à fait négligeable. Donc, le temps qui s'écoule dans le satellite, ça n'est pas le même que le temps qui s'écoule sur Terre. Est-ce que la différence est significative ? Eh bien oui, parce que on avait au début, enfin les concepteurs du GPS au début avaient imaginé le traitement des données du satellite sans tenir compte de cet effet-là, comme si le temps s'écoulait pareil pour tout le monde. Eh bien, ça marchait pas du tout. C'est-à-dire qu'on trouvait une localisation qui dérivait, je sais plus de combien, mais enfin c'était des dizaines de mètres par jour, c'était complètement inutilisable. Donc, même dans un système, disons, aussi familier que le GPS, il faut absolument tenir compte du fait que le temps n'est pas le même dans un satellite et chez nous. Et il n'est pas le même sur la Lune. Donc on est dans une situation où le temps tel qu'il était défini chez Newton et tel qu'on en a l'habitude n'existe pas. C'est-à-dire, il est impossible de donner rendez-vous avec quelqu'un de la galaxie d'Andromède à une heure précise. Ça n'aura jamais de sens, on n'arrivera jamais à se retrouver. Ça n'est possible dans notre environnement que pour des raisons que nous comprenons bien et que je viens de vous énoncer. Alors, ce qu'on essaye de faire, bien entendu, c'est, en théorie de la relativité, d'énoncer le plus possible, d'essayer le plus possible de retrouver des notions familières, des notions temporelles. Et quand on a un problème qui est de nature locale, comme par exemple dans le système solaire, avec les petites corrections dont je vous ai parlé, on y arrive à peu près. Il y a un autre cas où on y arrive à peu près, c'est la cosmologie. J'aurais pas le temps de vous expliquer pour quelles raisons, parce que, disons que la cosmologie, c'est finalement une solution très particulière de la relativité générale, et parce que cette solution est très particulière et qu'elle a des propriétés très spéciales, on arrive à redéfinir quelque chose qui ressemble au temps, qu'on appelle le temps cosmique, et quand on dit l'univers est âgé de 13 milliards d'années, ça a un sens dans ce cadre-là. Mais il ne faudrait pas croire, ça serait une erreur, que le temps s'est écoulé depuis ces 13 milliards d'années jusqu'à maintenant et que c'est un temps qui a les propriétés que nous connaissons. Je vous donne un exemple. Par exemple, deux événements qui se dérouleraient à la même valeur du temps cosmique ne sont pas du tout des événements simultanés, dans le sens où si on fait une expérience pour vérifier s'ils sont simultanés, on trouverait que non. Donc, voilà une indication que ce qu'on appelle le temps cosmique, parce que c'est bien commode, n'a pas cette propriété du temps que deux événements à la même valeur du temps sont simultanés, par exemple. Bon, mais il y a des tas d'autres choses qui diffèrent du temps habituel. C'est pour vous dire que même si, dans certains cas, on arrive à retrouver des notions qui ressemblent au temps, ça n'est jamais le temps comme le définissait Newton avec toutes ses propriétés. Et il existe des situations particulières où même il n'y a aucun moyen de définir quelque chose qui ressemble au temps. Par exemple, autour des trous noirs, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument aucun moyen de définir quelque chose qui ressemblerait à un temps qui s'écoulerait pour tous, disons, ceux qui sont dans l'environnement du trou noir, même en acceptant de pouvoir faire des petites corrections de l'un à l'autre. Bon, je n'en dis pas plus, mais... Donc moi j'interprète ceci en disant le temps a vraiment disparu de la relativité, des théories de la relativité, et on arrive plus ou moins dans certains cas à réintroduire des notions qui ont un caractère temporel, qui ressemblent au temps. Ça permet de réfléchir avec les réflexes habituels que nous avions, mais dans certains cas c'est pas possible. Et donc, moi, ce que je dis plutôt à mes étudiants en relativité, c'est oublier complètement les notions d'espace et de temps quand vous faites de la relativité, et vous verrez que, finalement, il y a un effort à faire pour s'en abstraire, parce qu'on en a l'habitude, mais, finalement, on s'aperçoit que les problèmes sont bien plus faciles à résoudre sans ça, et on fait moins d'erreurs. Bon, ça, c'est la physique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan philosophique? Et je vais terminer très rapidement. Est-ce qu'on peut dire que la notion de temps a disparu? Bon, moi, je dirais personnellement que oui. J'ai d'autres collègues qui sont un petit peu plus timides à cet égard. C'est un peu une question de choix. Mais dans la mesure où, si vous voulez, on n'arrive plus à définir un temps qui aurait l'essentiel des propriétés de ce qu'on a l'habitude d'associer au temps, je pense qu'on peut dire que le temps a disparu. Mais il y a encore pire. C'est que je vous ai parlé au début de cet exposé de ce grand mouvement de la physique fondamentale aujourd'hui qui cherche une nouvelle théorie. Et finalement, quand on cherche cette nouvelle théorie, on va évidemment s'inspirer des théories que nous avons aujourd'hui, qui sont la physique quantique et qui sont la relativité. Et une des questions fondamentales qui se pose, c'est est-ce que quand on va chercher cette nouvelle théorie, on va se fonder sur ce que je viens de vous dire, ce message de la relativité qui nous dit que le temps n'existe pas? Ou bien on va se dire non, c'est quelque chose qui n'est pas fondamental. Et puis finalement, on va essayer de restaurer une nouvelle physique avec le temps. Autrement dit, quand on cherche une nouvelle physique aujourd'hui, on a vraiment deux voies qui s'ouvrent à nous. Une des voies, c'est de dire, eh bien, la relativité générale a fait disparaître presque toutes les propriétés du temps. Donc elle a fait finalement disparaître le temps. Et comme nous le suggèrent plusieurs points de la physique, quand on va chercher une nouvelle théorie, on va aller encore plus loin dans cette disparition du temps et sans doute on va faire disparaître encore les dernières propriétés du temps qui restaient. Donc on va aller encore plus loin dans l'idée d'une physique sans temps. Évidemment, c'est difficile parce que réfléchir, raisonner sans le temps et l'espace, d'ailleurs, ça va avec, auquel on est habitué, c'est difficile, mais on a des idées, on progresse, on a en tout cas des choses intéressantes. Et puis la voie numéro 2, c'est se dire, ben non, la relativité, c'est quelque chose, ça a marché, mais c'est par hasard. Il faut revenir en arrière, il faut essayer de réintroduire le temps dans la physique. Le problème, c'est comment, puisque vraiment, on est confronté à cette expérience de la lumière et de la matière, celle du 19e siècle, qui nous dit vraiment, on ne peut pas restaurer les propriétés du temps. Donc, cette voie-là, même s'il y en a qui aimeraient bien la suivre, pour le moment, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la remise en cause du temps qui est impliquée par la relativité, c'est quelque chose de fondamental. Et jusqu'ici, moi, je n'ai jamais vu aucune suggestion qui permettrait de réintroduire le temps dans la physique. C'est-à-dire que quand on est passé de la physique newtonienne à la relativité, on a fait un pas dans la disparition du temps. La question, c'est est-ce que pour aller plus loin, pour trouver une nouvelle physique plus efficace, il faut revenir en arrière ou bien il faut aller un pas plus loin ? Donc moi, vous avez bien compris que je pense qu'il faut aller un pas plus loin. Pourquoi ? Parce que revenir en arrière, on retombe sur les mêmes problèmes que la relativité avait résolus et on ne sait pas les résoudre. Donc, mon idée, pour conclure, c'est qu'il faut aller de plus en plus vers une physique où il n'y aurait pas de temps, mais avoir une physique sans temps, c'est une nouvelle manière de raisonner. Il faut apprendre à raisonner sans le temps, sans l'espace. Ça paraît extrêmement difficile. Par exemple, la physique s'occupe, vous savez bien, des questions de mouvement, des questions d'évolution, des questions de dynamique. Est-ce qu'on peut définir l'évolution, la dynamique, le mouvement sans le temps ? Beaucoup de gens à qui je pose cette question vont dire non. La réponse est oui, parce que déjà ça, on sait le faire. On sait parler d'une évolution sans le temps, on sait la définir, on sait l'étudier. Donc beaucoup de choses qui a priori paraissent plus que difficiles, paraissaient impossibles, on sait que c'est possible. On sait qu'on peut au moins en partie raisonner sans le temps. Donc, ce que je veux dire, et je conclue là, c'est que beaucoup d'indices nous suggèrent que la physique que l'on cherche et qui serait efficace, si elle existe, serait une physique où les notions de temps, bon, peut-être ne disparaissent pas complètement, mais en tout cas deviennent de moins en moins présentes. Et finalement, ça pose un défi. Le défi, c'est d'arriver à raisonner sans le temps, d'une manière atemporelle, et je prétends que philosophiquement, c'est extrêmement intéressant, et que ça ouvre tout un champ de la réflexion qui est, même en faisant abstraction de la physique, de se redemander ce que c'est que le temps, et de se redemander si finalement, ce que nous appelons le temps, ça n'est pas qu'un intermédiaire pour définir les notions temporelles, de dynamique, de mouvement, d'évolution, de chronologie, etc. Et que ce qui a un sens, ce serait uniquement ces questions dérivées, et que si on réussit vraiment à donner un sens, le vrai sens de toutes ces questions dérivées, le concept de temps dont on avait l'habitude se révèle complètement accessoire et même superflu, non indispensable, et peut-être bien que dans 50 ans, dans un siècle ou dans un millénaire, cette notion de temps et la notion d'espace qui va avec paraîtra à nos successeurs complètement désuète. Voilà, c'est un peu le pari que je fais. Merci.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers.
Des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que
Das Kapital, il ne dit pas der Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines, une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais,